pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Igor Strauss.
Bonjour à tous et bienvenue dans C'est pas du vent. Et pour cette deuxième émission du week-end, eh bien, nous sommes toujours au salon de l'agriculture, dans le studio de l'AFD, l'Agence française de développement, et du CIRAD, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, que je remercie au passage. Sans lui, point d'agriculture. Lui, c'est le sol, essentiel pour notre alimentation, donc, mais pas que. Le sol sert aussi à réguler le cycle et la qualité de l'eau, à accumuler du carbone et à limiter l'effet de serre, à recycler les matières organiques et à entretenir la biodiversité. Bref, il joue un rôle déterminant, mais l'homme ne semble pas s'en rendre compte, n'y accordant pas le soin qu'il mérite, se contentant juste de le fouler de ses pieds. Oui, mais voilà, aujourd'hui, cette fragile épaisseur est menacée. De mauvaises pratiques d'exploitation ont entraîné une forte érosion, une perte de matières organiques et de nutriments. Et les conséquences de cette dégradation se font sentir avec la chute des rendements et les craintes concernant la sécurité alimentaire. Sachant que les terres ne sont pas extensibles et qu'en 2050, il faudra nourrir 9 milliards d'humains sur la planète, eh bien, il est temps de se pencher sérieusement sur cette question. C'est ce qu'ont fait les Nations Unies en décrétant cette année 2015 année internationale des sols. Est-ce que ce sera suffisant? Pas sûr. C'est donc à nous tous, agriculteurs, consommateurs, scientifiques, agronomes, économistes, écologistes, de trouver des solutions, car après tout, c'est de notre avenir à tous qu'il s'agit. Et pour parler de ce vaste problème de la dégradation des sols et de ses conséquences, nous sommes avec Patrick Caron. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur général chargé de la recherche au CIRAD, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. Cécile Bessou est avec nous également. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes agronome, docteur en sciences environnementales. Vous travaillez depuis 2010 au CIRAD, donc au sein de l'unité de recherche sur les systèmes de culture pérennes tels que le palmier à huile, l'EVA ou le caféier. Vous nous direz tout dans quelques instants. Et puis le docteur Sanoussi Atta est avec nous également. Bonjour docteur Sanoussi Atta.
Bonjour.
Vous nous venez tout droit de Niamey au Niger. C'est un honneur de vous avoir parmi nous. Vous êtes expert au Centre Régional Agrimet, le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, qui regroupe 13 pays d'Afrique de l'Ouest. Alors, merci à tous d'avoir accepté cette invitation. Quand on parle de dégradation des sols, certains spécialistes parlent de ruine du présent, allant jusqu'à dire que l'avenir du vivant est en jeu. Est-ce que vous partagez ce sentiment, Patrick Caron ?
Oui, je le partage complètement et j'apprécie vraiment le fait de mettre en parallèle le présent et le futur et l'avenir. Et j'irai même encore plus loin en mettant sur la même trajectoire le passé, le présent et le futur. Parce que le sol n'est pas uniquement une donnée naturelle, c'est aussi une construction entretenue et entreprise par des générations et des générations d'agriculteurs, d'éleveurs et de personnes qui ont travaillé la terre. Et donc on peut concevoir le sol effectivement comme tout à la fois comme un patrimoine et comme un capital qui est réserve de fécondité et de fertilité, mais qui n'est pas que ça. Et à ce titre, ce qui se passe effectivement en matière de dégradation des sols est extrêmement préoccupant et effectivement met en jeu l'avenir de l'humanité. Alors on le voit souvent au niveau local, mais le phénomène a une telle ampleur qu'il a conduit, suite au sommet de la Terre à Rio en 1992, à la reconnaissance au niveau multilatéral d'une des trois grandes conventions environnementales, celle sur la dégradation et la lutte contre la désertification.
Cécile Bessou, vous partagez l'analyse de Patrick Caron ?
Oui, tout à fait. Comme vous l'avez d'ailleurs précisé, le sol est aussi un milieu vivant. On a eu tendance à focaliser beaucoup sur les propriétés physico-chimiques des sols. Mais de plus en plus, on se rend compte que la biodiversité, la faune et la flore des sols est essentielle pour que le sol puisse continuer à fournir des services écosystémiques. Et donc par services écosystémiques, on entend notamment, comme vous le précisiez, le recyclage des nutriments, le stockage de carbone, la gestion de la qualité des eaux.
Il stocke deux fois plus de carbone que l'atmosphère. Ça, on a tendance à l'oublier, c'est vrai.
Tout à fait. Et il y est même question, beaucoup, dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, de travailler à des pratiques qui permettent d'accumuler du carbone dans le sol afin de réduire les émissions vers l'atmosphère. On parle souvent de peu de pourcentage hein, du fait de cette grande importance du stock de carbone dans les sols. Améliorer ce carbone de 1 ou 2% permettrait presque d'enrayer les augmentations de concentration de CO2 dans l'atmosphère.
Docteur Sanoussi Atta, en Afrique de l'Ouest, c'est l'aridité des sols hein, qui est le principal problème, c'est bien ça ?
Absolument. En Afrique de l'Ouest, c'est vraiment le phénomène de changement climatique qui se traduit par l'aridité. Parce que, comme vous le savez, le changement climatique se traduit par une augmentation des phénomènes extrêmes. On a parfois aussi une augmentation des inondations. Et ceci a des répercussions considérables sur la qualité du sol.
Inondation due à l'aridité du sol, puisque l'eau coule sur le sol, c'est ça ?
Absolument. Parce que quand vous avez des quantités d'eau qui tombent en grande quantité en un laps de temps très court, comme c'est le cas au Burkina Faso en 2013, où on a enregistré plus de 300 mm en moins de 24 heures, vous avez un ruissellement qui est très important, vous avez une dégradation des sols et même des cultures qui est très importante. Et ça affecte effectivement la gestion durable des terres et a un impact sur la sécurité alimentaire.
Est-ce qu'on peut parler encore d'accentuation de la désertification ou pas vraiment concernant l'Afrique de l'Ouest ?
Alors pour l'Afrique de l'Ouest, si on voit un peu les tendances pluviométriques au cours de ces dernières décennies, on a enregistré, c'est vrai, au cours des décennies 50 et 60 des périodes humides. Au cours des décennies 50-60 des périodes humides, oui, 70-80 des périodes sèches. Et actuellement, à partir de 1990, on a un rythme qui est très variable, c'est-à-dire on a une alternance des périodes humides et des périodes sèches. Donc actuellement, le problème qui se pose, c'est qu'on a une perturbation de la saison des pluies. On n'arrive plus à prévoir le démarrage des saisons de pluie. Et ceci se traduit par une difficulté dans la planification des activités agricoles.
Alors cette baisse de 25% des précipitations au cours des 50 dernières années a eu de graves conséquences évidemment. Et pour l'Afrique de l'Ouest, les rendements à l'hectare du coup sont parmi les plus bas au monde. Est-ce que les politiques en Afrique de l'Ouest, alors vous représentez 13 États, vous n'êtes pas tous les énumérés, mais qu'est-ce qui est fait en ce sens pour améliorer le rendement à l'hectare ?
Alors, pour améliorer le rendement à l'hectare, il va falloir changer d'attitude, changer de pratique. C'est vrai que jusqu'à présent, c'est des agricultures extensives qui consistent à augmenter les superficies pour augmenter le rendement. Mais il va falloir maintenant tendre vers l'intensification. L'intensification, c'est quoi ? C'est l'utilisation des engrais minéraux, c'est l'utilisation de la matière organique, c'est la pratique de l'agroforesterie. C'est des pratiques aussi qui consistent à régénérer l'environnement à travers notamment la régénération naturelle assistée, c'est-à-dire au niveau des producteurs, laisser le repousse des jeunes arbres au lieu de les détruire comme avant. Donc il va falloir changer de pratique. Il faut tendre vers une agriculture intelligente qui vise à améliorer durablement la productivité tout en augmentant également la résilience des populations à travers l'adaptation, la réduction des gaz à effet de serre, tout ceci pour améliorer la sécurité alimentaire des populations.
Et on va revenir évidemment à toutes ces solutions, ces différentes solutions. Cécile Bessou, ce rendement à l'hectare, est-ce que c'est un critère qui vous intéresse, vous ? Est-ce que c'est une échelle de valeur qu'il faut prendre en compte réellement ?
Si, c'est un paramètre qu'il faut prendre en compte pour la raison que vous évoquiez au départ, c'est qu'on est quand même sur des ressources finies.
Il va falloir nourrir 9 milliards d'humains en 2050, voilà, on est 7 milliards aujourd'hui.
Qu'il va falloir produire plus, mais aussi produire mieux. Nous y reviendrons également, je suppose. Notamment, là, on parlait d'intensification et le CIRA travaille sur l'intensification écologique. Mais pour revenir au rendement à l'hectare, donc c'est un paramètre important parce que dans un cadre de ressources finies, on ne peut pas se limiter à améliorer un système sur une surface donnée sans prendre en compte que ça va avoir des répercussions potentielles sur les surfaces environnantes et que si on réduit un rendement à l'hectare avec de bonnes pratiques, pour avoir la même quantité de produits finis, on sera obligé de cultiver en plus ailleurs, d'utiliser plus de surface et on ne sera pas forcément maître non plus des pratiques qui seront appliquées sur ces autres surfaces. Donc c'est ce qu'on parle quand on parle de changement d'occupation des sols, d'impact direct et indirect. Ces impacts indirects, il faut aussi donc les prendre en compte et dans cette approche, le rendement est un paramètre indéniablement très important.
Des questions, des témoignages, des idées ? Écrivez-nous à c'est pas du vent @ info@rfi.fr.
Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI, nous sommes toujours au Salon de l'agriculture à Paris. Aujourd'hui, nous parlons de la dégradation des terres et de ses conséquences sur l'environnement et la sécurité alimentaire. On l'a vu, le constat est là, inquiétant. Les terres arables sont de moins en moins fertiles, mais des solutions existent. Direction donc le nord-est de l'Éthiopie, dans la région du Tigré pour être précis, où la fondation suisse Green Ethiopia mène une campagne de reforestation. Extrait d'un reportage d'Alice Milo.
So my name is Simon. I'm a managing director of Foundation Green Ethiopia.
Je m'appelle Simon Pfister. Je suis le directeur de la fondation suisse Green Ethiopia, qui travaille sur la reforestation en Éthiopie.
Here, the situation has become worse.
La situation a empiré. Si vous étiez venu il y a 30-40 ans, cette colline était verte. Ce n'était pas non plus une forêt dense comme on peut en voir en Europe, mais c'était une forêt solide, une grande diversité, avec des arbres de différentes tailles. En tout cas, une végétation suffisamment riche et naturelle pour qu'elle se régénère par elle-même. Aujourd'hui, avec quelques acacias abyssinica, c'est impossible que la forêt s'auto-régénère. La situation ne peut qu'empirer. Le problème, c'est que si vous n'avez plus d'arbres, si vous n'avez plus de végétation, les pluies ruissellent sur les sols et provoquent des inondations qui endommagent tout. Les champs, les maisons, le bétail. L'érosion signifie que la pluie et le vent emportent la terre. Et la seule chose qui reste sur les collines, ce sont les pierres. À cause de cela, la productivité des terres de ces paysans est en déclin.
La terre est tellement sèche, on n'arrive pas à imaginer ici que les paysans arrivent à faire pousser quoi que ce soit.
Oui, c'est très difficile de cultiver dans ces conditions. Ici, on est à 2000 mètres d'altitude. C'est une zone très venteuse qui peut être très chaude. Le nord de l'Éthiopie est une des régions les plus sèches du pays. Il y a seulement une saison des pluies qui dure 3 mois. Et après cela, il ne pleut quasiment plus du tout. Donc le seul moment où tu peux collecter et stocker l'eau dans les sols, grâce à l'aide des arbres, c'est pendant ces 3 mois. Et avec ça, il faut tenir tout le reste de l'année. Donc c'est vrai qu'il y a des conditions climatiques particulières dans cette région. Mais comme je l'ai dit, une fois que la déforestation et l'érosion ont commencé, c'est un cercle vicieux qui empire sans cesse. Moins il y a d'arbres, moins l'eau est retenue dans les sols, et donc de moins en moins de nouveaux arbres sont en capacité de se développer. C'est un cycle infernal qu'il faut stopper. Il faut trouver une issue de secours.
Alors ici, on est au cœur d'un cirque de collines à seulement 6 km de la ville de Hadoa. Et là, nous sommes en train de gravir une des collines. C'est la seule colline qui est verte. Toutes les collines autour de nous sont des collines assez arides. Kurt Pfister, vous êtes le fondateur de l'ONG Green Ethiopia. Est-ce que vous pouvez nous expliquer où est-ce que nous nous trouvons ici exactement ?
Là, nous arrivons sur notre site de reboisement qui s'appelle Fakanta. C'est un endroit merveilleux que nous avons commencé à reboiser en 2009 sur environ 60 hectares. Nous avons choisi de reboiser cette colline parce qu'elle était extrêmement endommagée par l'érosion. Il n'y avait plus du tout d'arbres, plus rien, seulement quelques petits buissons. Donc, nous avons planté différentes espèces, comme vous pouvez le voir, des arbres indigènes qui maintenant sont devenus grands et magnifiques. Ça me rend heureux, vraiment heureux. Fakanta est un modèle de réussite. Je suis content. Regardez, mademoiselle. Tous ces champs que vous voyez en bas de la colline étaient vraiment très en danger. Chaque année, pendant la saison des pluies, la plupart de ces champs fertiles étaient détruits par des glissements de terrain venant de ces collines. Les pluies faisaient glisser les sols jusqu'en bas. Nous avons discuté avec les paysans du coin, avec les associations de paysans. Nous leur avons demandé, Est-ce que vous seriez prêt à ce que nous collaborions pour reboiser cette colline? Est-ce que vous seriez prêt à vous engager à créer des terrasses, à creuser des tranchées et des trous, de sorte que nous puissions reboiser cette colline? Ils ont été d'accord. Ils ont été d'accord parce qu'ils subissent les conséquences de cette érosion. Chaque année, les paysans ont de moins en moins de terres à cultiver. Et chaque année, à cause de cela, ils perdent des récoltes et des revenus. Et nous avons donc pu lancer un programme pour planter des arbres ici. Je dis toujours que la nature est merveilleuse. Laissez la nature travailler et elle vous donnera le meilleur d'elle-même, pour nous les humains.
Extrait d'un reportage d'Alice Milo en Éthiopie. La reforestation, c'est une partie de la solution, Patrick Caron?
Oui, certainement. Je reviendrai juste sur la question de rendement. Pour pouvoir répondre à votre question, comme Cécile l'expliquait tout à l'heure, à l'occasion du changement climatique, entre autres, il y a une reconsidération complète de ce qu'on attend du sol, comme des autres ressources, mais du sol en particulier. Et on n'en attend pas uniquement une production à l'hectare. Je pense qu'on en attend tout autant une production à l'hectare, ce qu'on voit très très bien dans le documentaire, qui est une régénération de la capacité de production de ce sol-là pour l'entretien des générations futures. Et dans le même temps, ce que disait Cécile tout à l'heure, la capacité de stocker du carbone ou d'autres éléments et de pouvoir ainsi lutter contre l'émission de gaz à effet de serre et le réchauffement climatique, les dérégulations climatiques. Donc tout ça amène à dire que le rendement en termes de production à l'hectare n'est que l'une des facettes de ce que l'on attend. Et c'est bien en reconsidérant l'ensemble de ces attentes et de ces productions qu'on peut effectivement juger de ce qui est en train de se passer. Et ce qu'on voit de merveilleux dans cette question de la reforestation, la capacité de l'arbre, dans le reportage que vous nous avez présenté, c'est en fait la capacité à justement jouer sur l'ensemble de ces attentes par des techniques appropriées. Je trouve ça absolument merveilleux. La seule chose que je dirais par rapport à la phrase de conclusion du reportage où notre ami dit « laissez la nature travailler », pour moi, il ne laisse pas la nature travailler, il fait travailler la nature, et c'est absolument remarquable. Donc il joue, et avec ces processus-là, il mobilise ces processus-là, mais dans quelque chose qui est totalement pensé et qui permet justement l'entretien de cette belle nature.
On attend trop des sols pour rebondir sur ce que disait Patrick Caron, Cécile Bessou.
Non, je pense que c'est pas vraiment ce qu'on attend des sols uniquement. Donc les sols, c'est le socle de toute vie. Donc forcément, tous nos espoirs reposent sur le socle des développements, notamment agricoles. Mais ce qu'on attend maintenant aujourd'hui, en tout cas la façon dont on aborde la gestion du sol, c'est une approche, donc on parle de système, c'est une approche systémique, et on l'a bien vu là avec l'exemple du reboisement. On est dans une approche qui prend en compte le milieu vivant, l'écosystème dans son ensemble.
Dans sa globalité.
Dans sa globalité. Et donc maintenant qu'on a changé d'approche, qu'on a changé de paradigme, on n'attend pas seulement du sol, mais on considère le sol et sa vie comme un élément d'un système qu'il faut penser, faire travailler, comme le disait très justement Pratique, dans son ensemble, avec des mécanismes par contre qui sont très complexes et sur lesquels on travaille à mieux comprendre les fondements.
Alors l'érosion des sols prive la terre d'éléments essentiels comme le phosphore ou l'azote. Hein. En Afrique subsaharienne, on parle de perte de 30 à 80 kilos de nutriments essentiels par hectare. Est-ce que Agrimet, en Afrique de l'Ouest, vous travaillez justement dans ce sens sur la reforestation? Et quels sont les programmes qui existent actuellement?
Alors,
Docteur Sanusi Atta, pardon.
Alors le CILS et le Centre régional en particulier met l'accent beaucoup sur la gestion conservatoire des terres. Il y a tout un ensemble de pratiques, de techniques, de conservation des eaux et du sol, et de défense et restauration du sol. On met l'accent par exemple sur les techniques de ZAI, de demi-lune.
On va en parler tout à l'heure, voilà. Ça.
Donc c'est tout un ensemble de programmes, et on intervient également au niveau du Centre régional Agrimet à travers le renforcement des capacités par la formation des étudiants de niveau master en changement climatique et développement durable, et master également en gestion durable des terres. Donc là, ce sont des cadres qui sont formés, qui vont, au niveau de leurs états, promouvoir la gestion conservatoire des terres dans un contexte de changement climatique.
Patrick Caron, Cécile Bessou, Docteur Sanusi Atta, vous restez avec nous. On est bien ici au Salon de l'Agriculture. On se retrouve dans un petit peu plus de 3 minutes après le rappel des titres sur RFI. C'est pas du vent, à suivre.